Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain.
Et je poursuis avec Audrey-Anne Bouchard, qui est artiste, et puis on va découvrir son parcours autant au niveau professionnel, mais aussi personnel. Allô, Audrey-Anne.
Bonjour, Julie. Merci de l'invitation.
Bien là, moi, je suis vraiment contente. On s'était parlé un petit peu au téléphone déjà, et là, je me suis dit, ah, ça va vraiment être super intéressant parce que bien, j'aime ça mettre en lumière des personnes qui sont en situation de handicap visuel, et c'est ton cas.
Oui, hein? Tout à fait. Donc, moi, j'ai la maladie de Stargardt.
Il y a tellement de maladies. Celle-là, je l'ai jamais entendue.
Bon, mais elle n'est pas si commune. Mais okay. En fait, c'est une dystrophie maculaire qui affecte la macula dans la rétine. Mm-hmm. Et donc, j'ai pas de vision centrale. J'ai des scotomes au centre de mon champ visuel. Alors, je fonctionne seulement avec ma vision périphérique.
OK.
Ce qui fait que je vois environ à 45 % aujourd'hui. C'est une maladie dégénérative, mais okay. Pour l'instant, moi, ma situation est stable, donc j'ai cette chance.
OK, mais ça, c'est de naissance?
Oui, c'est de naissance, okay. Mais pour ma part, j'ai commencé à perdre la vue à la fin de l'adolescence, donc autour de 16-17 ans, mais ça a pris quelques années avant qu'on puisse nommer la maladie comme telle, et donc avant que je prenne vraiment conscience de comment je voyais, en fait, comment je réalisais que j'arrivais pas à lire des mots au tableau à l'école, des choses comme ça, mais je comprenais pas exactement qu'il me manquait des portions dans l'image.
Ça veut dire que toute petite, toi, tu t'es comme développée normalement, tu voyais.
Oui, je voyais très bien.
Il n'y avait pas du tout de limitation à ce moment-là?
Non, pas du tout. Puis il n'y a pas d'autres cas dans ma famille, donc c'est pas non plus quelque chose qu'on surveillait ou qu'on soupçonnait.
OK. Et là, à ce moment-là, quand ça a commencé, comme tu dis, là, tranquillement, ça s'est mis à dégénérer et ça a pris quand même encore quelques années avant qu'ils disent « voici le diagnostic ».
Exactement. Mais je dirais que moi, dans mon champ visuel, j'ai pas une tache noire ou un... C'est vraiment plus comme un angle mort, donc il me manque une partie de l'image. Mais c'est difficile à comprendre quand tu vis avec ça, parce que quand le médecin, en fait, m'a demandé de regarder tout droit, puis là, elle mettait des choses vraiment au centre de mon regard, que là, j'ai réalisé, ah, c'est à cet endroit-là que je ne vois pas. Okay. Mais avant ça... J'avais des difficultés, mais je pensais, ben j'ai besoin de lunettes, comme d'autres enfants. Oui. Puis là, ben j'ai eu des lunettes. Ça n'a pas tant amélioré la situation. Mais à force de faire comme ça des recherches, puis c'est tant qu'on ne voit pas le bon spécialiste qu'on...
et justement, dans ton type de maladie, c'est quel spécialiste qui est le bon?
Oui, donc c'est vraiment un neuro-ophtalmologiste qui va se spécialiser surtout dans la rétine.
OK. Vraiment au niveau de la rétine.
Oui.
Donc un rétinologue, tout ça. Mais en fait, ce que je trouve quand même... intéressant dans le sens que moi, j'aime ça découvrir des nouvelles même maladies, là, t'sais, des conditions au niveau de l'œil, parce que je trouve que c'est quand même assez fascinant. Parce qu'on entend souvent les mêmes maladies. T'sais, on entend souvent le glaucome, rétinite pigmentaire, dégénérescence maculaire, des décollements de rétine. T'sais, c'est souvent les
c'est
mêmes.
Plus commun, oui.
Oui, c'est ça. T'sais, comme moi, j'ai la DMLA.
D'accord.
Donc, ma macula, elle est affectée, mais clairement pas de la même façon que ta maladie à toi, parce que sinon, ben ils appelleraient ça la même chose.
Exactement, c'est un peu différent.
Et moi, ce que ça fait, c'est que ça assombrit. Tu sais, c'est comme si... Parce que là, toi, tu disais, c'est pas comme si ça faisait ça. Tu sais, tu parlais d'un angle mort, mais tu sais, moi, c'est comme si ça crée une tache. Mm-hmm. Moi, ça crée vraiment comme une tache au centre. Donc, tranquillement, c'est tout croche, là. Tu sais, c'est ondulé, c'est plus des lignes droites, c'est rendu tout est courbé. À un moment donné, bien là, ça fait que tu perds des petits bouts. Puis là, tranquillement, ça devient une espèce de tache grise. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça peut devenir une tache noire, tu sais, dans le milieu.
D'accord.
Mais toi, c'est pas ça?
Pour l'instant, non. Moi, j'ai pas de... C'est un peu comme quand on regarde une lumière
un certain temps.
Ça me fait un petit halo, mais...
Comme quand t'as, c'est ça, un petit halo un peu bleuté ou vert ou...
Oui, ou pour ma part, c'est vraiment okay. comme lumineux. C'est vraiment donc, blanc-jaune, là, la couleur de la lumière.
Dans le centre.
Oui.
Comme si c'est un peu blanc, tu sais, on va dire une lumière, là, tu sais, comme quand tu te fais faire un examen de rétine, là, où est-ce qu'ils t'agrandissent, ils te mettent la, les gouttes pour dilater ton œil, que là, ils regarde en haut, regarde à droite, c'est épouvantable. C'est c'est souffrant. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment souffrant parce que tu forces tellement pour essayer de. Ben, parce que tu es complètement aveuglé. Pas que ça brûle, mais on dirait que ça brûle. En tout cas, c'est bien spécial. Fait que c'est... Puis après ça, tu vois pas rien. Là. Tu vois, t'es aveuglé complètement. On le sait que c'est temporaire. Mais ça veut dire que toi, à ce moment-là, t'as ça tout le temps dans le centre, mm-hmm. mais tu vois bien les contours, ta vision périphérique.
Exact.
Donc, tu peux... Parce que t'es arrivé, t'as pas de canne blanche.
Non. J'ai pas de canne blanche pour le moment. Peut-être éventuellement, ça deviendra un besoin avec une baisse de vision. Mais pas pour l'instant. Pour l'instant, ça va, étant donné que j'ai ma vision périphérique, j'arrive à bien m'orienter.
OK.
Puis j'ai développé aussi ce qu'on appelle la vision excentrique. Donc, c'est-à-dire que je regarde, je trouve j'arrive à focaliser sur des points précis en regardant un peu à côté.
À côté, exact. Un peu croche, là.
C'est cela.
Oui, oui, c'est ça. Souvent, on arrive à... On se tasse la tête un peu de cette façon-là, puis on va chercher des bouts qui nous manquent. Là. On développe plein de petites stratégies. Et là, il y a tous des traitements pour cette maladie-là? Tu sais, comme la dégénérescence maculaire, c'est des injections qui... En tout cas, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais il y a quand même un traitement. Toi, la maladie que tu as, il y a-tu des traitements?
Pas pour l'instant.
OK. C'est dégénératif.
C'est cela.
Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas...
Non, pas pour l'instant. Okay. Il y a beaucoup de recherches quand même.
Oui,
Mais pour l'instant, il n'y a pas de solution okay. encore trouvée.
Et est-ce que c'est une maladie qui te prépare déjà à dire qu'éventuellement, c'est une cécité complète?
En fait, majoritairement, non.
Okay.
Mais j'ai connu des gens qui ont la maladie de Stargardt qui ont une cécité complète. C'est plus rare. C'est comme une forme plus aiguë.
OK.
Mais d'une personne à l'autre, c'est un peu différent. Donc, on ne peut pas trop prédire. Mm. S'il y avait des gens dans ma famille qui l'avaient, oui. je pourrais me comparer un peu à eux.
Oui.
Mais comme ce n'est pas le cas, c'est un peu l'inconnu. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir, comme porter des verres fumés, porter...
Pour le soleil.
Pour le soleil et donc limiter. Dans le cas de Stargardt, c'est vraiment dû aussi à la vitamine A.
Ah, oui.
Donc, en fait, c'est...
T'as comme un supplément.
C'est ça, c'est qu'on n'a pas le gène qui permet de l'éliminer. Mm-hmm. Donc, elle va se déposer sur la rétine. Donc, c'est vraiment de faire attention aussi à la consommation de vitamine A.
De pas trop en prendre, dans le fond.
Ça? Ben, oui, tu sais, les mais médecins... Mon spécialiste me disait, bon, tu peux pas t'empêcher non plus de manger tout ce qu'il y a de la vitamine A, mais tu sais, de pas prendre des suppléments, par exemple.
Ah, c'est ça. OK, donc toi, c'est le contraire. Pas de suppléments.
C'est ça. C'est
OK, tu vois, quand t'as la dégénérescence, c'est le contraire. Ils veulent que tu prennes un supplément avec la lutéine, vitamine A, tout ça ensemble. Là.
D'accord.
Donc OK, toi, c'est le contraire.
Exactement.
OK, OK. Puis là, à ce moment-là, quand t'es petite, comme on dit, tu vois bien. Donc, toi, tu t'es développé normalement. Et là, à quel âge qu'on a su, là, vraiment, tu as la maladie Stargardt?
Oui, je pense que j'avais 19 ans.
OK.
Oui, j'étais à la fin de mon cégep et j'étudiais en arts visuels.
Déjà, c'était ça, en fait, ma question, tu sais, c'est de voir si tu avais déjà commencé le processus.
Ben oui, tout à fait. Okay. Moi, depuis tout petite, j'ai toujours dessiné et à la fin de mon secondaire, j'ai fait mon collégial en arts visuels.
OK.
Et puis, j'avais pas encore décidé d'aller en arts de la scène, mais j'étais déjà bien engagée là, dans le domaine artistique.
OK. Oui. Puis là, je sais, là, c'est pas arrivé, là, c'est pas comme ça, mais tu sais, c'est plus voir si c'est déjà une réflexion, tu t'es dit, tu sais, comme là, t'étais entamé, t'avais deux pieds dedans, donc là, tout d'un coup, dire, ah ben non, là, je peux pas faire ce métier-là, tu sais, c'est une chose, versus de dire, mais j'irai jamais étudier là-dedans,
mm-hmm.
je serai pas capable de faire ce métier-là, là, finalement, visuellement, là.
Mm-hmm. Mais c'est sûr que dans mon cas, je me suis pas du tout posé de questions par rapport à mon cheminement. Non. D'abord parce que quand j'ai eu le diagnostic, ma vue avait déjà baissé de comme 50%.
Ah,
donc, oui. J'arrivais déjà à fonctionner, puis à créer des choses que j'aimais, puis qui, tu sais, que mes professeurs trouvaient intéressantes aussi. Donc, ça n'a pas été un questionnement. Je pense qu'aussi, proche de la début vingtaine, maintenant avec du recul, j'avais peut-être pas la maturité d'avoir toute cette réflexion. Tu sais, c'est sûr que c'était un peu un choc sur le coup.
Ouais.
Puis j'étais peut-être plus dans le déni de dire, je continue comme si... En fait, oui, je reçois cette nouvelle, mais... au quotidien, ça va pas changer mon quotidien, mon parcours. Puis ça l'a pas changé mon quotidien non plus parce que je vivais déjà avec le handicap
sans le savoir, c'est ça.
Le fait d'avoir le diagnostic, ça fait que j'ai pu avoir une référence vers un centre de réadaptation puis plein d'outils pour m'aider à faire ce que je faisais déjà sans les outils.
C'est ça la différence.
Exactement. Donc à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment ça.
Puis comme tu dis, tu as eu une période, tu dis probablement que j'étais dans le déni, mais y a-tu un moment déni où est-ce que tu dis « OK, non, là, ça a frappé. » Tu sais, là, j'ai pris conscience de ce que ça voulait dire, une perte de vision, que c'est dégénératif.
Pas tant. En fait, ce qui était difficile, moi, je viens de la ville de Québec. Okay. Et donc, j'avais 18-19 ans, c'est ça. Donc, le fait de ne pas pouvoir conduire, pour moi, c'était le plus gros deuil. Je dirais que ça l'est encore aujourd'hui.
Parce que c'était clair. Est-ce que tu as déjà conduit, puis on t'a dit non, là, c'est terminé, ma
J'ai eu mon permis temporaire. Donc, j'ai conduit avec quelqu'un à côté de moi. Là,
mais quand même.
Quand même, oui.
T'es assis.
Oui, oui. Puis venant d'une ville où il n'y a pas de métro, tu sais, le transport en commun est moins développé, c'était vraiment nécessaire. Mais maintenant, à Montréal, je vis bien sans. Oui. Mais donc ça, c'était un deuil. Par la suite, ce qui s'est plutôt passé, en fait, c'est que j'ai été très soutenue déjà par les intervenants autour de moi. T'sais, on m'a donné beaucoup d'exemples d'artistes qui vivaient avec des conditions visuelles spéciales, comme... Il y a des gens qui disent que Van Gogh voyait beaucoup en jaune, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jaune dans ses toiles.
Ah!
Après ça, on disait que Monet, quand il a développé l'impressionnisme, c'est aussi parce qu'il voyait quand même flou. Toutes sortes de... Je sais pas, après, je peux aller vérifier l'exactitude de tout ça.
En même temps, il y a beaucoup d'artistes visuels qui ont... Tu sais, que c'est souvent quelque chose qu'on va entendre. Tu sais, qu'il y avait différentes conditions d'handicap, là, tu sais, avec leur sens, avec... même au niveau cognitif, là, tu sais,
Tout à fait. Donc, ça m'a plutôt comme encouragée, puis convaincue que j'étais dans la bonne voie. Puis après, c'est plus quand j'ai... Donc là, après, mon parcours un petit peu bifurqué parce que avant la fin de mon cégep, j'ai décidé finalement de m'orienter plutôt vers la scène et donc de faire des décors.
Parce que tu disais plus au début, c'était art visuel.
Exactement. Au début, je deviens artiste peintre. Est-ce que je fais des installations, tout ça?
Oui.
Mais il me manquait vraiment le côté du travail d'équipe.
Ah,
c'est quand même assez solitaire, tu sais, artiste visuel. Et donc, moi, j'ai fait de la danse aussi toute jeune pendant tout mon secondaire. Et puis, c'est quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai trouvé ce programme-là ça s'appelle Design for the Theater à l'Université Concordia. Mais c'est comme scénographie où on étudie les décors, les costumes, les éclairages. Et je suis déménagée à Montréal pour étudier dans ce programme.
OK.
Et j'ai entamé une carrière comme conceptrice d'éclairage à Montréal. Et c'est au fil de cette carrière-là, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais le fait que tu vois différemment, ça doit influencer ta manière de créer. Puis,
c'est sûr.
Moi, je ne m'étais pas trop posé la question.
Oh non!
Pas tant, parce qu'au début, tu veux un peu rentrer dans le moule. Ouais. Tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi. Tu veux dire, moi, je travaille comme tout le monde. Mais après, je suis allée faire une maîtrise en Europe, en France, puis j'ai décidé de faire mon sujet de recherche sur l'intégration de la projection vidéo dans les performances. Mais c'est vraiment là que j'ai réalisé, mon métier est très visuel, en fait.
Mais mon Dieu, tellement!
Je fais un métier de l'image. On dirait que ça m'avait jamais frappé avant.
Oui.
Et puis, j'ai commencé à réfléchir à comment on pourrait communiquer la danse et le théâtre au-delà de la relation visuelle qui prime entre performeur, oui, spectateur. Donc, oui, tout est parti un peu de là, mais ça, à ce moment-là, je dirais que le fait de ne pas voir, c'est devenu plutôt comme un chemin pour découvrir des nouvelles façons de faire que de me dire, ah, ben là, je peux pas faire ce métier-là. C'est pour répondre à ta question.
Oui, mais...
Ça a été plus ça, le cheminement.
C'est comme si, finalement, c'est devenu un levier. Hein? C'est comme si ça t'a élevé puis ça t'a amené vers. Parce que, tu sais, des fois, on peut faire ça, tu sais, de dire, hey, je vais aller vers, et des fois, c'est dans l'évitement. Et les personnes qui sont en situation de handicap visuel, beaucoup, souvent, c'est le mécanisme qui est le plus utilisé, l'évitement. Je ne vais pas sortir de chez nous comme ça. Je ne vais pas être challengée sur qu'est-ce qui pourrait arriver. C'est parce qu'on n'a pas vraiment le contrôle. Non. Alors que, ben moi, je suis comme toi. Moi, je vais vers. J'utilise finalement ma condition pour amener ça à créer,
oui, puis on
autour
a,
de ça.
On a aussi quand même, je pense, une certaine autonomie qui permet que c'est plus facile.
Mon Dieu,
je comprends que...
Parle-moi d'autonomie, je veux dire, moi, c'est...
C'est ça.
C'est ma vie. Moi, c'est, si j'ai pas d'autonomie, là, je... Pouf!
Ben c'est ça. Je peux comprendre que quelqu'un qui perd peut-être la vue plus drastiquement d'une journée à l'autre, c'est moins facile, là.
Oui.
Je veux dire, moi, ça a été quand même...
C'est... Oui, oui, graduel.
Je dis pas que ça a été facile pour moi, mais je veux dire, j'ai quand même eu des conditions... qui ont favorisé, si on veut, mon parcours aussi, je pense.
Tu sais, puis moi, j'ai envie de te dire que je pense aussi que c'est une question de personnalité, point, à la base. Parce que, tu sais, moi, on m'avait déjà dit ça aussi, que c'est pas parce que tu as un handicap que tu vas développer toutes les, tu sais, l'espèce de proaction de vouloir être dans l'autonomie au maximum. Et ça, c'est une question aussi de personnalité, tu sais, donc personnalité peut-être un petit peu plus fonceuse, puis de dire, ben moi, non, moi, je vais défoncer les portes. Parce que sûrement que t'en as défoncé des portes.
Peut-être,
tu sais. Fait que moi, je trouve ça super intéressant, tu sais, puis de voir que finalement, ton moteur créatif, c'est toute cette relation-là, justement, par rapport au visuel. Puis moi, ça, c'est quelque chose que c'est pour ça que dans cette émission-là, je trouvais super intéressant, c'était de prendre des gens en situation de handicap visuel, mais des gens qui ne sont pas en situation de handicap visuel pour les amener à se questionner, à avoir une réflexion par rapport au sens de la vie. Parce que nous, entre nous, là, on se parle, on le sait, là, c'est dégénératif, là, on le sait ce que ça veut dire, on le vit. Mais tu sais, moi, j'aime ça aller rejoindre... T'sais, ma sœur qui est à côté, qui voit super bien, que comme je suis sa sœur, on dirait qu'elle le comprend, je vais dire de même. T'sais, comme si elle le comprend, je suis sa sœur.
Oui.
Quand après ça, tu lui poses des questions concrètes, là, on dirait que tout d'un coup, elle ne veut pas aller là. Non. T'sais,
oui.
Elle est heureuse de voir. Ben, dis pas que demain matin, elle pourrait plus voir de quoi qu'elle a l'air dans le miroir. T'sais. Donc là, c'est là je me suis dit, ben moi, ça me tente d'amener les gens à vivre l'inconfort de ce questionnement-là parce que, mais c'est vrai, on est dans une société visuelle.
Absolument.
Donc, toi, t'es encore plus les deux pieds dedans parce qu'on est au niveau de l'art. Et l'art, c'est visuel. Là. Tout est visuel.
Oui, ben c'est sûr qu'il y a la musique, il y a plein de formes dans l'art, mais l'art du spectacle.
Ben non, mais l'art du spectacle, c'est ça. Oui, tu sais, je veux dire, oui, tu peux écouter de la musique, mais tu sais, c'est souvent la musique, elle va être vue, elle va être, tu sais, les réseaux sociaux. Tu sais,
oui, on est dans un monde où on promouvoit tout à travers le visuel. Dans mes demandes de subvention pour pouvoir créer mes projets, je crée des vidéos de mes œuvres.
J'explique, c'est ça.
Voici une vidéo de mon spectacle, mais ce n'est pas comment le spectateur le reçoit parce que les spectateurs et spectatrices ne voient pas dans l'expérience.
Mais, OK, donc justement, toi, comment tu bâtis... ton show, là. Tu le bâtis comme si ça s'adresse à un public qui est non-voyant ou à des voyants, mais qu'on leur fait vivre l'expérience?
Non, c'est vraiment la première, c'est une bonne question. En fait, c'est vraiment, on fait nos choix. Déjà, pour répondre à la question, oui, je le bâtis pas toute seule, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, c'est
ça. Tu l'as dit au début, ce que t'aimes, c'est le travail d'équipe.
C'est ça, exactement. Oui. Donc, je travaille avec des chorégraphes, des auteurs, des scénographes qui vont faire les décors, des compositeurs, des concepteurs sonores. Donc, c'est vraiment toute une équipe.
Oui.
Et nous, on part vraiment sur la base, on crée le spectacle pour le public non-voyant.
Ah ouais.
Donc, parce que les retours des personnes voyantes et semi-voyantes, parce que moi, je suis semi-voyante, mais je me ferme les yeux pour faire la mise en scène, parce que on ferait pas les mêmes choix artistiques si on les faisait les yeux ouverts.
C'est sûr.
Donc, il faut vraiment partir du principe que tous les autres sens sont mis à contribution, mais on ne voit pas. Et donc, c'est ça, j'ai pas les mêmes retours. Par exemple, si on implique beaucoup la communauté des personnes non-voyantes dans nos répétitions. Par exemple, si on présente une scène où il y a un... Je vais donner un exemple. Dans mon premier spectacle, Camille, un rendez-vous de la du visuel, on avait fait une scène autour d'une table où tout le monde partageait un repas.
OK.
Puis pour nous, tous les artistes qui étaient voyants ou semi-voyants, on se bandait les yeux, on trouvait ça donc original. Mais les personnes non-voyantes qui sont venues assister à la scène m'ont dit, ben nous, c'est comme tous les soirs de notre vie. Là. Oui. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans.
C'est ça.
Donc, je me suis dit, ben oui, tout à fait. Mm. Et pour rendre l'expérience extraordinaire, ben là, on a décidé pendant ce repas-là autour de la table qu'on allait rentrer dans la pensée d'un des personnages, qui allait avoir des flashbacks, on allait retourner dans son enfance. Oui. À un moment, on a essayé aussi que la table devenait une cabane, comme on se crée quand on est enfant, puis on se cache en dessous de la table. Donc, vraiment d'aller vers un univers. En fait, le fait de me concentrer sur la perception des personnes non-voyantes me permet vraiment d'aller vers d'autres avenues créatives. Puis je donne un autre exemple. Il y a une scène où on avait, par exemple, la radio qui jouait en même temps que deux personnages qui se parlaient. Puis les personnes voyantes me disaient, ben là, ça fait beaucoup d'informations à percevoir, à recevoir en même temps. Mais les personnes non-voyantes, eux, ben ils étaient tout à fait capables de suivre tout ce qui se disait à la radio et de suivre la conversation en même temps. Donc, c'est là où, ben moi, je me dis, dans ces moments-là, mais nous, notre public cible, c'est les personnes non-voyantes. Donc, on va faire les choix qui vont permettre que le spectacle soit vraiment conçu selon leur sensibilité. Mais c'est sûr que c'est une expérience intéressante aussi pour le public voyant.
Qui peut venir les yeux bandés.
Exactement, qui doit venir les yeux bandés.
Pour c'est vivre ça. Vraiment l'expérience.
Absolument.
Mais tu vois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que la différence, c'est que souvent, on va voir un spectacle qui est pour les voyants, mais là, il va y avoir de l'audio-description qui n'est pas adapté pour ceux qui ont un handicap visuel. Et là, on se retrouve bombardé d'informations. Et là, t'entends tellement trop d'affaires, puis là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, je déteste l'audio-description.
Oui, c'est vraiment une question de goût, mais je pense qu'il y a différentes. L'audio-description, c'est en développement en ce moment à Montréal, ça commence.
Ben,
donc, je pense aussi qu'il y a différents styles qui vont se développer, puis il y a différentes
approches. Et toi, c'est comme si c'est pas... Tu sais, toi, c'est là la différence. C'est que toi, c'est que tu te mets déjà dans les bottines, toi et ton équipe, de quelqu'un qui a un handicap visuel, et non, comme je te dis, un spectacle traditionnel que là, on essaye de faire rentrer.
C'est ça. On crée pas un spectacle conventionnel qu'on adapte lequel on va créer des outils d'accessibilité. La forme du spectacle en soi est inclusive.
Complètement.
C'est ça. Donc, nous, ça implique que le public n'est pas assis dans la salle. Le public est dans le décor avec les acteurs, les danseurs.
Mm-hmm.
Et donc, c'est soit un parcours ou soit ils sont assis sur une chaise puis on va naviguer tout autour d'eux pendant le spectacle. Peut-être que leur chaise va vibrer.
Wow.
Le son va voyager tout autour des spectateurs. Ils vont être amenés à toucher les murs de la maison. Donc, il y a cet élément-là.
Très comme interactif.
Absolument.
Et là, justement, là, tu as parlé, tu as des spectacles que tu as faits, mais là, tu es en construction d'un prochain qui est pas... Tu sais, que tu peux pas annoncer, là, parce que c'est pas encore... officiel.
Exactement. C'est pas encore tout à fait officiel, mais on travaille...
Ça s'en vient.
Oui, c'est ça. Depuis 2021, on travaille sur la création d'un deuxième spectacle L'année passée, on tournait encore le premier spectacle qui s'appelle Camille, comme je l'ai mentionné auparavant. Le deuxième spectacle s'intitule pour l'instant Fragment. On verra si
Mais ça pourrait évoluer, c'est ça qui arrive.
Oui, exactement. Ça pourrait évoluer. Quoique, je pense que c'est un bon titre pour le moment.
Fragment, là, oui.
Oui, tout à fait. Puis, c'est vraiment sous le même principe où les spectateurs vont être invités dans l'espace de la performance.
Oui.
Et ils vont être en interaction avec les personnages. C'est à la fois, je dirais que c'est comme un mélange de danse-théâtre. Donc, on travaille avec des danseurs, on travaille beaucoup à communiquer le mouvement du corps par le mouvement, par le contact physique.
OK.
Et c'est cela. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de, pour l'instant, deux femmes qui ont habité une même maison, mais à deux époques différentes.
Oh, wow!
Et donc, on fait un peu ce saut-là dans les époques.
Dans les deux espaces-temps, mais ça, dans le fond, comme tu dis, il n'y a pas encore de date officielle, mais exemple que vous souhaitez, c'est quoi, à l'automne
2025? Oui, ça sera à l'automne 2025.
OK, fait qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir revenir... dans
avec
mon
plaisir.
Émission, pour là, officialiser et nous en parler.
Avec plaisir.
Dire, là, c'est telle date à telle salle, parce que là, c'est pas le cas. Mais on sait que c'est projeté là, pour l'automne.
Absolument.
Et ça va être à Montréal?
Oui, ça va être à Montréal.
Bon, c'est sûr. Fait que moi-même, je vais pouvoir aller m'asseoir et vivre cette expérience-là. Moi, j'ai vraiment très hâte parce que quand je voyais, déjà, je cherchais, je me disais, oui, où sont pas de spectacle? Là, je veux y aller. Oh non, il n'y en a pas.
Tout à fait, ça s'en vient.
Mais ça s'en vient. Mais ça a été vraiment un plaisir immense de t'accueillir dans mon émission. J'aime beaucoup ton parcours. Je trouve que, tu sais, je me retrouve dans plusieurs trucs que tu as dit. Puis en même temps, ben, je trouve ça beau, tu sais, de voir comment que le côté artistique, tu sais, comment ça va nous nourrir, l'handicap finalement va nourrir la création. Puis moi, j'aime ça, tu sais, quand je rencontre des personnes qui utilisent ça comme un moteur. Puis je trouve que tu représentes bien ça.
Ben merci beaucoup. C'est tout à fait réciproque. Merci pour la belle invitation aujourd'hui.
On peut te suivre sur les réseaux sociaux, hein?
Oui, tout à fait. Donc, j'ai une page qui est Audrey-Anne Bouchard, conceptrice au-delà du visuel sur Facebook.
Oui.
Et sinon, on a un site web aussi qui est tout à fait accessible.
Audrey-Anne Bouchard?
Non, c'est vraiment www.audeladuvisuel.com.
OK.
Exactement.
Mais même moi, quand j'écris Audrey-Anne Bouchard, ça
va vous amener.
C'est ça, exactement. Bien, merci beaucoup, Audrey-Anne. Ça a été une super belle émission aujourd'hui. J'étais contente de passer ce beau vendredi avec vous. Donc, Marc-Antoine, Lévesque, 13 ans, vous allez pouvoir le retrouver finalement quelque part sur une patinoire éventuellement. Et sinon, bien, merci, Audrey-Anne, Mathieu Tessier à la mise en onde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre belle émission de Mission Vision. Bye-bye tout le monde!